Au journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Après l'attentat d'Avaz, la réponse de la République islamique sera terrible, déclare le président Hassan Rouhani. Un attentat au Khouzistan, une région stratégique à l'histoire heurtée, élément de contexte avec le chercheur David Rigoulet-Rose. Emmanuel Macron et la procréation médicalement assistée sont les deux cibles de la Manif pour tous qui a tenu son université d'été, reportage d'Antoine Marette. Nous nous rendrons au Conseil national du Modem à Guidel dans le Morbihan et nous apporterons un éclairage aux zones d'ombre en voie de dissipation autour de l'enjeu de la candidature à la mairie de Barcelone de Manuel Valls. Suspense. Quelques heures après l'attentat qui a fait 25 morts à Avaz lors d'une cérémonie commémorative de la guerre Iran-Irak, les autorités iraniennes ont livré quelques informations. Les quatre auteurs de la fusillade ont été abattus et près de la moitié des tués sont des gardiens de la révolution. Téhéran promet le pire à ses ennemis de toujours, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ainsi qu'à, je cite, « leurs parrains régionaux des terroristes ». Fin de citation. Ce coup de force revendiqué par l'organisation État islamique s'est produit dans le sud-ouest iranien, le Khouzistan, qui a son histoire. Élément de compréhension avec David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique sollicité par Isabelle Labéry.
Effectivement, l'Iran en tant que telle, puissance à la fois perse et chiite, constitue un ennemi désigné pour l'État islamique. Mais en tout état de cause, ça n'enlève rien à la spécificité d'éventuels mouvements identitaires locaux susceptible d'être instrumentalisé soit par l'État islamique, soit par des puissances extérieures. C'est une région particulièrement sensible parce que d'abord elle est peuplée d'arabophones, entre 2 et 3 millions, c'est l'équivalent de 3% de la population iranienne. Avant, au début du siècle, ça s'appelait l'Arabistan. En fait, c'est le Reza Shah Pahlavi qui, quand il a pris le pouvoir en 1926, a décidé de renommer cette région Khouzistan, justement pour éviter la référence à la culture arabe. C'est une région d'autant plus sensible que c'est là qu'a été découvert le pétrole iranien. Et ça, encore aujourd'hui, c'est la région qui concentre 80% du pétrole iranien. Donc c'est une région en ressources riches et pourtant la population justement n'a pas forcément bénéficié de cette richesse puisque elle est considérée comme délaissée par le pouvoir central justement parce qu'elle n'est pas peuplée majoritairement de personnophones. Le taux de chômage est de l'ordre de 40%, il touche de manière écrasante effectivement les ressortissants arabophones. Le taux de pauvreté est élevé et c'est une région en plus qui subit au niveau du climat des conditions extrêmement sévères dont la population considère qu'elles ne sont pas palliées par le pouvoir central.
Plus de 200 morts selon un dernier bilan communiqué par les autorités tanzaniennes, 3 jours après le naufrage d'un ferry au sud du lac Victoria. Ibrahim Boubacar Keïta pose la première pierre de son second mandat en élevant au rang de priorité nationale la sécurisation du Mali. C'est aujourd'hui le 58e anniversaire de l'indépendance du pays, un pays en proie au nord comme au centre à des conflits ethniques. À Moscou, pas un week-end ou presque sans une mobilisation contre la réforme des retraites, fronde récurrente et néanmoins inhabituelle. 3000 personnes ont défilé aujourd'hui sur une grande avenue de la capitale russe avec des pancartes à l'effigie de membres du parti au pouvoir Russie Unie. Pancartes barrées de slogans comme « ennemis du peuple ». En France, vent porteur pour la rentrée de la Manif pour tous, collectif dont les adhérents étaient invités cet après-midi dans l'Essonne à des débats aimantés par la PMA, procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de femmes. Le mouvement catholique, marqué à droite, sélectionne ses cibles et rôde ses argumentaires. C'est un reportage d'Antoine Marette.
À l'université d'été de la Manif pour tous, on croise le très conservateur Yvan Rioufol, éditorialiste qui fustige le politiquement correct incarné selon lui par l'actuel gouvernement. Mais aussi, plus étonnant, Dominique Régnier, le politologue libéral qui avait exprimé son soutien à la loi Taubira, tente de convaincre l'assistance qu'un retour en arrière est impossible.
On peut perdre, puis gagner une élection et perdre à nouveau ensuite, mais par contre, on ne défait pas ce qui a été fait en matière de politique de la vie.
Ça n'est pas vrai.
C'est faux.
À la sortie du chapiteau où se déroulent les débats, une militante de la Manif pour tous, Alpag, Dominique Régnier, Elle veut connaître sa position sur le sujet du moment, la PMA pour toutes.
Vous êtes pour la PMA sans
père? Oui.
Ça veut dire deux mamans et pas papa.
Oui, ça c'est...
Avec aucune filiation paternelle, aucun lien.
Vous voyez, c'est juste...
On n'arrive pas à pouvoir vous situer, en fait, j'ai rien compris finalement.
Ah bah tant pis, je suis désolé.
C'est la présidente de la Manif pour tous qui est à l'origine de cette invitation inattendue. Ludovine de la Rochère justifie son choix par le nouveau contexte politique.
Chacun enrichit le décryptage d'un contexte politique qui est nouveau, puisque malgré tout, l'élection d'Emmanuel Macron a été une surprise pour beaucoup. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir leurs différentes analyses. C'est avec joie que nous sommes ouverts à toutes les sensibilités. Et c'est bien la raison pour laquelle nous appelons Manif pour tous.
La Manif pour tous n'en reste pas moins fidèle à ses fondamentaux, le conservatisme sociétal. Sa nouvelle cible, la PMA pour toutes, rebaptisée par Ludovine de la Rochère, la PMA sans père.
Le MoDem, lui, attend de la majorité quelques égards. La première année du mandat d'Emmanuel Macron en aura manqué. Le meilleur allié du candidat attend un changement de ton et, encore plus ambitieux, un virage sur bien des dossiers importants. C'était tout cela du temps des malentendus. Au Conseil national du MoDem, à Guidel, dans le Morbihan, Adrien Toffolet.
En réalité, tout va bien entre l'exécutif et le MoDem.
C'était pas ni une querelle, ni une question de mauvaise humeur. Dans le groupe, on n'était pas dans ce mode-là.
Pour Bruno Millienne, député des Yvelines, certains ont utilisé des mots un peu forts, majorité trompe-l'œil, mais c'était en vérité un message bienveillant d'allié à allié.
Il faut simplement, quand ça commence à se cristalliser, être capable de mettre les choses sur la table et de dire « Ok, on s'assied, maintenant on discute et on voit comment on peut améliorer les choses ». Voilà, c'est ça le sens du message. Pour moi, il n'y a rien d'autre.
Besoin de s'affirmer et d'affirmer une ligne, notamment sur le social. Marc Fesneau, le président du groupe à l'Assemblée nationale.
On a fait entendre ce qui nous paraît être important de faire entendre dans le débat public aujourd'hui. C'est ça qui a été en jeu dans les déclarations des uns ou dans les prises de position qui ont été les nôtres, par exemple au Perchoir. C'était de montrer aussi que nous portons une ligne et que c'est une ligne aussi qu'il faut entendre dans le pays, bien au-delà du caractère du MoDem.
Preuve qu'il y avait quand même bien un problème, Christophe Castaner et Édouard Philippe ont pris le temps de les choyer cette semaine avec des mots rassurants et un plan en pauvreté à la hauteur de leurs attentes. Nadia Essan, députée du Cher.
La réponse du gouvernement peut sembler satisfaisante. Maintenant, j'attends de voir ce que ça va donner concrètement, mais je suis assez optimiste.
La séance de câlinothérapie n'est pas terminée. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, était présent ce matin à Guidel pour réaffirmer l'unité. Demain, ce sera le tour de Christophe Castaner.
Un indice supplémentaire pour trancher la question qui domine la vie politique de part et d'autre des Pyrénées. Cette question, c'est celle de la candidature de Manuel Valls à la mairie de Barcelone. Il y a à l'Assemblée nationale ces appels à la démission de plus en plus nombreux dans les rangs socialistes et auprès d'élus de La République En Marche. De l'autre côté du massif, il faut se pencher sur l'organigramme de campagne de la gauche indépendantiste qui, elle, Sébastien Berriot, elle se prépare bel et bien à une candidature Valls à Barcelone.
La gauche républicaine indépendantiste qui gouverne à la Generalitat avec les amis de Carles Puigdemont avait choisi son candidat pour les municipales à Barcelone. Ce devait être le chef de l'opposition de gauche au sein du conseil de la ville. Mais cette semaine, le parti a créé la surprise en opérant un changement de dernière minute. La formation s'apprête finalement à investir Ernest Maragall, actuel ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement catalan. Officiellement, rien à voir avec une possible candidature de Manuel Valls. Mais ce choix n'est pas un hasard. Ernest Maragall sera clairement plus à même de faire campagne face à l'ancien Premier ministre français. C'est un indépendantiste qui est plutôt modéré et dans une ville où l'indépendance est loin d'être majoritaire, il pourrait réussir à détourner une partie de l'électorat convoité par Manuel Valls. Et surtout, Ernest Maragall est le frère de Pasqual Maragall, maire de Barcelone, très populaire dans les années 80 et 90. Il ne va certainement pas manquer de se revendiquer de l'héritage de son frère. Manuel Valls, s'il se lance dans la bataille, va donc devoir s'adapter à ce nouveau concurrent qui compte appuyer là où ça fait mal, Ernest Maragall, déjà en campagne.
Il a choisi de se rapprocher avec Ciudadanos. Donc c'est déjà tout dit. C'est le parti qui est le bras armé de la justice espagnole, qui essaye de produire la division sociale. Que Manuel Valls accepte de représenter ça, la seule question qu'on pourrait se faire, est-ce qu'il y a encore quelques lointaines relations entre Manuel Valls et le socialisme démocratique? je ne les vois pas.
Un argument qui risque de coûter des voix à Manuel Valls s'il se présente dans une ville qui est très à gauche et qui est d'ailleurs dirigée aujourd'hui par une femme, Ada Colau, issue de la mouvance d'extrême gauche.
Sébastien Berriot, la météo de demain dimanche, temps pluvieux dès le lever du jour sur le nord du pays, des averses de la Normandie au Hauts-de-France, de fortes rafales de vent du bassin parisien à la frontière belge, ciel plus lumineux au sud. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Théo Gomard.